Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le monde fascinant des effets visuels, les VFX. C'est un terme qu'on entend souvent, parfois on le confond un peu avec les effets spéciaux, les SFX.
C'est vrai.
Mais en fait, une grande partie de la magie qu'on voit à l'écran, surtout le numérique, ça relève bien des VFX.
Exactement.
Et ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est que des outils comme DaVinci Resolve 19, ils démocratisent vraiment cette puissance. C'est plus réservé qu'aux gros studios hollywoodiens.
Ah oui, ça devient accessible.
Pour nous guider dans tout ça, on a mis la main sur des extraits d'un document assez dense, biblefx.pdf. Il explore justement les capacités de Resolve 19 pour les effets visuels.
D'accord.
Notre mission, si on veut, c'est de comprendre ensemble comment fonctionnent les masques, les formes vectorielles, les fameuses shapes, les particules, et même la 3D intégrée, pour voir comment on peut créer des effets des plus subtils aux plus spectaculaires. Ok, alors, on y va. Décortiquons ça.
C'est une excellente mission, et ce guide, il montre bien pourquoi Resolve est un super terrain de jeu pour les VFX. D'abord, il y a son architecture intégrée, ça c'est clé. On passe super facilement du montage à Fusion pour les effets, puis à l'étalonnage, tout ça sans jamais quitter le logiciel.
C'est un gain de temps, j'imagine.
Énorme. Et une cohérence de travail. Mais surtout, il y a la page Fusion. Son approche nodale, c'est ça le cœur du réacteur, si on veut.
Oui, les nœuds.
Voilà. Plutôt que d'empiler des calques comme dans d'autres logiciels, on connecte des nœuds. Chaque nœud fait une action précise. Et cette logique visuelle, elle est incroyablement flexible.
Ça invite à tester des trucs, c'est ça ?
Exactement. Ça invite à expérimenter, à combiner, à créer des flux de travail parfois complexes, mais de manière logique. C'est vraiment fait pour ça.
Bon, alors commençons par les bases, mais des bases super importantes. Les masques. Le guide le rappelle bien, ça sert à isoler, cacher, révéler des zones.
Le béaba.
On pense aux formes simples, le rectangle, l'ellipse, mais le guide insiste sur leur combinaison. J'ai vu un exemple rigolo. Deux ellipses, un rectangle, et hop, on a une vue, comme dans des jumelles.
C'est ça. C'est simple, mais ça montre bien l'idée d'assemblage.
Tout à fait. Et ça va plus loin que juste découper, c'est ce que tu disais.
Ah oui, largement. Le document insiste beaucoup sur les bords adoucis, le soft edge ou bord flou. C'est essentiel pour intégrer un effet ou une correction couleur de manière subtile. Fini les lignes dures, quoi. Imagine, tu veux ajouter un peu de brume juste à un endroit, ou éclaircir seulement une partie d'un visage. C'est avec ça qu'on le fait proprement.
D'accord.
Le guide montre aussi comment on peut assembler, par exemple, plusieurs masques rectangles pour refaire les carreaux d'une fenêtre. Et là, tu peux appliquer un effet différent dedans et dehors. Ça devient un outil narratif, tu vois.
Oui, je vois. C'est plus juste technique. Et dans Fusion, on passe un cap avec les formes S-shape.
Voilà, les formes vectorielles dédiées.
Le guide liste les classiques, S-rectangle, S-ellipse, mais aussi S-star pour faire les étoiles, S-n-gon pour les polygones. Et le truc important, c'est de toujours connecter ces nœuds S-shape à un nœud S-render, c'est ça ?
Pour qu'on les voit.
Précisément. Le S-render, c'est lui qui transforme la description vectorielle en image visible dans la composition. Sans lui, la forme existe, mais elle n'apparaît pas.
Et c'est là que ça devient créatif. Le guide donne des exemples.
Oui, comme l'effet Polaroid. Super simple, mais malin. Un S-rectangle blanc pour le cadre, un autre plus petit pour l'image, et entre les deux, un nœud S-booléen réglé sur soustraire. Paf, ça fait le trou pour la photo.
C'est une bonne démo de la combinaison de nœuds.
Exactement. Deux formes simples, une opération logique, et t'as un truc graphique utile. Le document parle aussi du nœud S-jitter. Tu l'appliques à une forme et elle se met à vibrer, à trembler de manière aléatoire.
Ah oui, pour donner un peu de vie. C'est ça. Pour dynamiser un titre ou un élément graphique qui serait un peu trop plat sinon.
Et il y a cette astuce qui m'a surprise, le cadre sans texte. Un genre de hack, non ?
Ah oui, celle-là, elle est bien.
Créer un cadre juste avec l'outil texte standard de la page montage, sans même aller dans Fusion.
C'est un super exemple de détournement d'outils.
On ajoute un effet texte, on efface le texte, et on utilise juste les options d'arrière-plan, mais en mode contour. On règle l'épaisseur, la couleur, et voilà, un cadre vectoriel ajustable.
C'est malin, hein ? Ça montre bien qu'il faut connaître ses outils. Parfois, la solution rapide n'est pas celle qu'on croit.
C'est clair.
Et pour des formes plus dessinées, plus organiques, le guide mentionne aussi le nœud Mask Paint dans Fusion. Là, tu dessines littéralement ton masque ou ton cadre à la souris ou à la tablette, pour un rendu moins géométrique.
D'accord. Alors, là, on arrive à un chapitre qui va intéresser beaucoup de monde, je pense. L'animation des textes et les effets sur les images. Le chapitre 7 du guide parle d'une mine d'or. les gabarits, les fichiers, point setting.
Ah oui, les presets d'animation de texte.
Exactement, des blocs de texte animés prêts à l'emploi. Le gain de temps doit être fou. Les noms donnent envie, blocs dépliants, boîtes rotatives, révélations avec un cercle, ailes de texte.
C'est plus qu'un gain de temps, ça donne accès à des animations parfois complexes, sans avoir à plonger dans Fusion pour tout construire soi-même. C'est très précieux.
Et pour les effets sur les images elles-mêmes, le chapitre 8.
Oui, là aussi, il y a des choses intéressantes. Il détaille les hotspots, ces zones interactives qu'on voit souvent dans les tutos pour attirer l'œil.
Ah oui, pour souligner un bouton ou une zone.
Voilà. Avec plein d'options, formes, couleurs, animations, c'est très paramétrable. Autre classique abordé, les lens flares.
Les fameux reflets de lentilles.
C'est ça. Pour le réalisme, simuler le soleil ou juste pour le style, un effet cinéma. Le document en liste une vingtaine, ça montre la variété.
Et au-delà de ces classiques, j'ai vu des trucs plus créatifs. L'effet kaléidoscope, par exemple.
Oui, pour transformer une image en motif symétrique. Assez psychédélique, parfois.
Et surtout, la technique pour transformer une scène de jour en nuit. Chapitre 11. Ça m'a paru très intéressant parce que c'est pas juste baisser la luminosité.
Non, c'est beaucoup plus fin. Le guide explique bien comment combiner les outils. Faut une correction couleur globale, bien sûr, pour bleuir et assombrir. Mais après, on utilise des masques, souvent des ellipses avec un bord très flou, pour simuler la lueur des lampadaires ou de la lune. On leur donne une couleur un peu chaude avec un nœud background, on ajoute du flou, blur, sur ces lueurs, et parfois même un nœud DVE pour projeter cette lumière au sol en perspective.
Ah ouais, c'est une vraie construction.
C'est la combinaison intelligente de toutes ces petites briques qui crée l'illusion de la nuit. C'est un super exemple de la puissance des nœuds. Tu construis ton effet couche par couche.
D'accord. Et dans un autre registre, le chapitre 13 parle des fichiers mat.
Oui, les caches animées. Souvent des vidéos en noir et blanc.
C'est ça. Le blanc est opaque, le noir transparent. C'est l'idée.
Ou l'inverse, ça dépend. C'est une technique classique pour les transitions graphiques ou pour incruster des éléments sans utiliser de clé couleur. Le guide explique que Resolve gère ça très bien, surtout via le nœud Lumacayer dans Fusion.
Lumacayer.
Il utilise la luminance, la luminosité de la vidéo mat, pour créer la transparence sur une autre image. C'est une super alternative au format vidéo avec couche alpha, comme le RGBA, qui sont souvent hyper lourds. C'est une question de workflow, en fait.
Cette idée de transparence animée, ça nous amène logiquement aux particules. Chapitre 14 et 20. Ça fait un peu peur au début, les particules, non ?
Ça peut impressionner, oui. C'est vu comme un truc complexe. Mais le guide essaie de démystifier ça. L'idée de base, c'est de simuler des phénomènes où il y a plein de petits éléments. La fumée, le feu, la pluie, la neige, les étincelles.
Mmh.
Et la structure de base, d'après le document, est finalement assez simple. Il te faut une source, un émetteur, le nœud pi-emitter, c'est lui qui crache les particules.
Ok.
Et il te faut un moteur de rendu, le nœud pi-render, pour qu'on les voit à l'écran. C'est le duo de base.
Émetteur, rendu. Simple. Mais après ?
Après, ce qui donne la vie, le réalisme, ce sont les forces. Ce sont d'autres nœuds qu'on met entre l'émetteur et le rendu.
Des forces.
Oui, pour influencer le mouvement. Tu vois, au lieu que les particules aillent juste tout droit, tu peux simuler des choses. Pi turbulence pour ajouter du chaos, du vent. Pi vortex pour faire des tourbillons. Pi bounce pour qu'elles rebondissent sur des surfaces invisibles. Pi directional force pour les pousser dans un sens.
Ah, d'accord. On sculpte le mouvement, en fait.
Exactement. On peut même simuler des comportements de groupe, comme des oiseaux ou des poissons, avec pi floc. C'est la combinaison de ces forces qui rend le truc naturel et moins mécanique.
Et l'émetteur lui-même, le pi-émetteur, il a des réglages clés.
Ah oui, plein. Le guide insiste sur la durée de vie, lifespan, combien de temps une particule existe avant de disparaître. La vitesse, velocity bien sûr, et surtout le style.
Le style, l'apparence.
C'est ça. Ça peut être un simple point lumineux, une tache floue, blob, un trait, line, mais le plus puissant, c'est le mode bitmap ou brush. Ça permet d'utiliser n'importe quelle image comme forme de particule.
Ah, génial ! On pourrait utiliser une image de flocons pour faire de la neige ?
Exactement ! Ou une image de feuilles mortes pour simuler l'automne. Ou même une petite séquence vidéo en boucle comme particule. Imagine un logo qui s'envole en milliers de mini-logos animés. Les possibilités sont énormes.
Ça ouvre des portes, c'est sûr. Le guide donne l'exemple du feu d'artifice, chapitre 20. Ça a l'air d'être une bonne illustration de tout ça.
C'est une excellente étude de cas, très détaillée. Ça montre bien comment on empile les techniques. D'abord, un émetteur pour lancer la fusée principale.
Ok.
Ensuite, et c'est ça la clé de l'explosion, un nœud PESPON. Ça veut dire que quand la première particule, la fusée, atteint un certain point, elle engendre plein d'autres particules. C'est l'éclatement.
Ah, d'accord. P-spawn pour la multiplication.
Voilà. Et après, c'est une combinaison de forces. Puis de turbulence, un peu de pu vortex, de la gravité, avec puis directional force vers le bas, de la friction pour ralentir, tout ça pour sculpter la montée, l'explosion et la retombée réaliste des étincelles.
Et le render à la fin pour voir le résultat.
C'est ça. L'exemple va même jusqu'à montrer comment dupliquer tout le système, le retourner verticalement, ajouter du flou pour créer un reflet crédible dans l'eau en dessous.
Impressionnant. C'est de la complexité, mais construite logiquement.
Tout à fait. Et pour gérer cette complexité d'ailleurs, il y a un point technique que le guide aborde, section 14.13, le domaine de définition, le DOD.
Le DOD, qu'est-ce que c'est ?
Ne calcule que les pixels qui sont dans chaque zone, parce que c'est là qu'il se passe quelque chose.
Ah, pour pas calculer toute l'image si l'effet est petit.
Exactement. Au lieu de mouliner sur du Full HD ou de la 4K, même si tes particules sont juste dans un coin, le DOD limite les calculs à la zone utile. Pour les particules ou n'importe quel effet localisé, c'est un gain de performance énorme. Ça va beaucoup plus vite.
C'est automatique ou faut le régler ?
Resolve essaye de le gérer au mieux tout seul. Mais parfois, on peut le visualiser ou le forcer avec des nœuds comme autodomaine. C'est une optimisation un peu cachée, mais vitale pour les projets lourds.
D'accord, je vois. On change de domaine maintenant, on passe à la 3D. Chapitre 15, 16, 17. Le guide confirme. Oui, Resolve intègre un vrai environnement 3D dans Fusion.
Tout à fait, c'est un des gros points forts.
Et pour faire une scène simple, la recette de base, c'est quoi, d'après le guide ?
Il faut un objet.
Oui, par exemple, une forme créée avec le nœud Shape 3D.
Une caméra.
Une caméra 3D, pour choisir ton point de vue.
De la lumière.
Une ou plusieurs, comme un spotlight.
On mélange tout ça.
Avec un Merge 3D. C'est lui qui assemble tous les éléments 3D.
Et à la fin, pour voir le résultat en 2D,
il faut un renderer 3D. C'est lui qui fait le rendu final, qui calcule l'image 2D à partir de ta scène 3D. C'est le pipeline logique.
Et on a du contrôle sur ces éléments, la caméra, la lumière. Ah oui, beaucoup. La caméra 3D, tu règles sa position, sa rotation, mais aussi sa focale. Grand angle, téléobjectif, la profondeur de champ pour avoir du flou d'arrière-plan, comme une vraie caméra, quoi.
Et la lumière ?
Pareil. Un spotlight, tu règles son cône, large ou étroit, son intensité, la douceur de ses bords et surtout, est-ce qu'il projette des ombres ? Les ombres, c'est crucial pour ancrer les objets, pour le réalisme.
Et les objets eux-mêmes ? Le shape 3D, il fait quoi ?
Il fournit les formes de base, cubes, sphères, cylindres, plans, tors. Mais on peut aller plus loin. On peut les déformer avec des modificateurs comme Bender 3D pour les tordre ou les plier, ou en créer des copies arrangées spatialement avec dupliqué 3D.
On peut faire des choses assez complexes alors ?
Oui, déjà rien qu'avec les outils intégrés.
Et si on a des objets 3D créés ailleurs, dans Blender par exemple ?
Pas de souci. Le chapitre 17 le précise bien. On peut importer des objets 3D externes. Resolve supporte des formats courants comme FBX, OBJ et même USD.
USD, c'est le format de Pixar, non ?
C'est ça. Universal Scene Description. C'est de plus en plus utilisé. Donc, tu pourras amener des modèles 3D complexes, des personnages, des décors, directement dans ta compo Fusion. C'est une intégration très poussée.
Super intéressant. Allez, pour finir notre exploration, un mot sur les transitions. Le chapitre 18 rappelle un truc simple, mais utile. Les transitions standards de Resolve, celles qu'on glisse entre deux clips sur la timeline montage, on peut souvent les personnaliser un peu plus.
Oui, au-delà des réglages de base dans l'inspecteur.
De la transition elle-même dans la timeline, on a parfois accès à un éditeur de courbes. Ça permet de régler la vitesse, de faire des accélérations, des ralentis, pour un rendu moins basique.
Moins mécanique, oui. C'est bien de le rappeler. Mais si on veut créer ses propres transitions, du sur-mesure...
Alors là, le chapitre 19 explore deux grandes méthodes. La première, tout faire dans Fusion.
C'est la plus flexible. Le guide donne l'exemple classique du volet animé. Tu prends tes deux clips, A et B, tu les branches sur un nœud merge.
Ok.
Et tu crées un masque, disons un rectangle. Tu connectes ce masque à l'entrée masque du merge.
Et après, on anime le masque ?
Exactement. Tu animes la position ou la taille du rectangle avec des images clés. Et hop, ça révèle progressivement le clip B par-dessus le A. Tu peux faire ça avec une ellipse pour un wipe circulaire, animer l'angle du rectangle pour un volet diagonal. T'as un contrôle total.
C'est puissant. Et l'autre méthode ?
utiliser des fichiers vidéo externes.
Oui, des maths de transition.
Souvent, des animations en noir et blanc ou sur fond vert ou noir, spécialement conçues pour ça.
D'accord.
Si la vidéo a une couche alpha, la transparence intégrée, le guide explique comment l'importer et l'utiliser. Parfois, c'est même via la page étalonnage, en l'important comme mat externe.
Et si elle n'a pas d'alpha, juste un fond noir par exemple?
Alors, tu l'amènes dans Fusion, tu utilises un keyer, le guide recommande le Delta Keyer, plus moderne et performant que le vieux Chroma Keyer, pour enlever ce fond noir. Ce qui reste de l'animation devient ton masque dynamique pour faire la transition entre tes deux clips.
Encore une fois, plusieurs façons d'arriver au même résultat.
C'est ça. C'est un thème récurrent dans le guide et dans Resolve en général. Le choix dépend du contexte, des assets que tu as, de ton niveau. C'est cette flexibilité qui est intéressante.
Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a effleuré. Grâce à ces extraits de biblefx.pdf, on voit que DaVinci Resolve 19, c'est une sacrée boîte à outils pour les VFX.
C'est le moins qu'on puisse dire.
On a du masquage avancé, des formes vectorielles dynamiques, des effets de texte, images tout faits ou à faire soi-même, des particules pour des simulations complexes, un vrai environnement 3D intégré et même de quoi créer ses propres transitions. C'est énorme.
C'est énorme. Et je crois que le point clé qui ressort, c'est vraiment la puissance de l'approche nodale de Fusion. C'est ça qui permet ces combinaisons infinies.
Et qui encourage la créativité, comme l'astuce du cadre sans texte.
Exactement. Ça pousse à trouver des solutions malignes. Bien sûr, les gabarits, les presets, c'est super pour gagner du temps. Mais au fond, pour maîtriser tout ça, même les particules ou la 3D, il faut revenir aux bases. Bien comprendre les masques, les transformations, le merge, la gestion des couleurs et les quelques nœuds clés de chaque domaine, comme pi-emitter ou renderer 3D. Et si on replace ça dans un contexte plus large, même une utilisation subtile de ces outils peut tout changer. Un petit masque adouci pour guider le regard, quelques particules discrètes pour l'atmosphère, une intégration 3D légère, ça peut vraiment élever la qualité et l'impact d'un projet.
Ce qui nous amène à une question peut-être pour conclure. On pense souvent VFX égale gros effets spectaculaires de blockbuster.
Oui, c'est l'image qu'on a.
Mais avec tous ces outils accessibles dans Resolve, est-ce que l'utilisation créative et peut-être justement très subtile de ces techniques, un masquage ultra précis pour une correction couleur, une simulation de poussière à peine visible, une transition personnalisée mais discrète, comment tout ça pourrait transformer la narration, l'ambiance, l'émotion d'un projet vidéo plus modeste, plus personnel?
C'est une excellente question. Ça ouvre des perspectives au-delà du spectaculaire.
Voilà, une piste de réflexion. Notre exploration s'arrête ici pour aujourd'hui. Elle était basée, on le rappelle, sur des extraits du document bible-fx.pdf sur les effets visuels dans DaVinci Resolve 19.
Un sujet riche.
Absolument. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse approfondie.